Le magazine Femina de VOA Afrique.
Peut-on changer le monde à travers l'éducation des jeunes? Comment faire le pont entre les diverses générations, cultures, peuples et religions à l'heure où notre cher monde est confronté à d'innombrables divisions qui semblent s'accentuer non sans épargner la jeunesse de nombreux pays. Une jeunesse aux prises avec le radicalisme des uns et des autres, un radicalisme visant à diviser plus encore, tandis que d'autres travaillent sans relâche à forger des unions. Union, division, de forces opposées, indissociables, de notions antinomiques qui jalonnent inlassablement notre histoire commune, notre histoire à tous. Ceci étant, chères auditrices, chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. C'est Nathalie Barge pour un débat avec vous, mais je ne suis pas seule dans le studio 13 de VO Afrique. J'ai en face de moi une femme exceptionnelle, Marie-Claude Svaldi, fondatrice et présidente d'ECOS, ici à Washington, à Fairfax exactement, une entreprise de conseil pédagogique international spécialisée dans le placement des étudiants internationaux. Madame, merci beaucoup d'être avec nous.
Merci beaucoup Nathalie, ça me fait plaisir d'être là.
Alors je fais un petit récapitulatif, enfin, je dis bien petit, ça va déjà être assez long, de votre parcours en quelque sorte, parce que vous avez bien sûr un CV à rallonge. Vous êtes d'origine libanaise, vous avez une maîtrise en éducation et littérature anglaise à l'université d'État à Beyrouth au Liban, en maîtrise en gestion de projet à l'université Villanova en Pennsylvanie aux USA. Au cours de votre carrière dans le milieu universitaire, vous avez travaillé sur des projets avec des communautés de différentes religions et culture visant à rassembler les gens par l'éducation. Vous avez été chef de projet pour Pearson Education, intégrer et développer la langue anglaise dans tous les pays du Conseil de coopération du Golfe. Vous avez créé pas moins de 48 programmes, dirigé de nombreux projets pour les conseils scolaires, les ministères de l'éducation, et vous avez une expérience européenne, donc une expérience du Moyen-Orient. En 2010, vous étiez à la mission culturelle de l'Arabie Saoudite, vous avez supervisé tous les programmes d'anglais seconde langue pour 60 000 étudiants inscrits aux États-Unis, ce qui n'est pas rien. 2013, vous avez travaillé avec le gouvernement libyen et le ministère de l'enseignement supérieur de l'Arabie Saoudite ou de la Libye, là? De l'Arabie Saoudite.
Les deux. Hein. Tous les deux.
Alors, vous avez administré, donc, leur programme de bourse d'études dans le monde entier. Vous êtes donc experte en gestion des programmes de bourse gouvernementale interculturelle, ce qui intéresse beaucoup l'Afrique, et vous souhaitez justement peut-être un petit peu vous étendre sur l'Afrique, parce qu'en fait vous travaillez beaucoup avec les pays du Moyen-Orient, mais très peu avec l'Afrique jusqu'ici. Donc voilà, c'est peut-être une ouverture éventuellement, parce que de nombreux étudiants en Afrique nous écoutent. Madame Svaldi, pourriez-vous dans un premier temps nous parler de votre vision de pont entre les cultures?
C'est-à-dire, Nathalie, ma vision est une vision de paix, une vision de changement mondial, et je trouve qu'à travers l'éducation et la culture, ce serait le moyen le plus fort, le plus entendu partout au monde pour essayer de rapprocher toutes ces cultures, toutes ces religions, tous ces différents jeunes gens de cultures différentes, de pays différents à travers le monde, se réunir pour une voie de paix à travers le monde, parce que je sens que vraiment le monde va vers une direction triste qu'on doit quand même aménager et rectifier immédiatement.
Alors en fait, on dit de vous que vous êtes de chargé de guider des générations de jeunes adultes, hein, c'est le cas. Vous ouvrez la voie à un changement déterminant dans la vie des étudiants qui deviennent de jeunes professionnels et retournent dans leur pays respectif. Et de par cette éducation, ils changent forcément le monde de demain. Vous aimez le concept de mondialisation positive, bien entendu. Et ces étudiants, donc, qui sont plus ou moins sélectionnés d'une manière générale, ils vont vivre, vous les placez, vous les aidez à s'intégrer dans la société. Il faut dire que comme ils viennent pour la plupart de pays du Golfe, ils sont d'origine musulmane.
Absolument.
Et ils sont intégrés dans des familles chrétiennes aux États-Unis.
Tout à fait. C'est-à-dire, une fois que les élèves sont sélectionnés pour la bourse, ils doivent venir aux États-Unis à travers notre société, ECOS. Et une fois aux États-Unis, ils sont intégrés dans un bootcamp. Ce bootcamp, il facilite la vie culturelle, il facilite l'intégration dans la vie américaine, les traditions, la culture et le savoir-faire avant de s'intégrer dans une université ou un campus américain. Donc, partie de ce bootcamp, c'est exactement introduire ses élèves dans des familles américaines, chrétiennes pour la plupart, où l'élève apprend toutes les traditions américaines, toutes les différentes notions d'une famille américaine, comment ils gèrent leur vie, comment les choses se passent dans une famille américaine. Et je trouve que cette intégration, c'est la plus belle des choses, voir comment cet élève, pour la plupart, comme vous avez dit, musulman, comment l'intégration se fait, comment le développement de cet enfant se fait et comment les idées se changent petit à petit. Là où, dans les deux côtés, il y a une mauvaise, dirais-je, une mauvaise sensation, que ce soit les Américains chrétiens envers les musulmans et vice-versa. Et tout ça se dissipe. C'est énorme. C'est énorme à voir et à observer en très peu de temps comment cette relation évolue, se change et éventuellement va changer le monde, je l'espère.
Mm-hmm. Alors nous avons en ligne Kwasi Ndakofi, de la Côte d'Ivoire, qui dit « L'éducation des jeunes peut changer le monde dans la mesure où un jeune non éduqué constitue un danger pour un pays et pour le monde. » Alors on l'écoute. Kwasi Ndakofi, on vous écoute. Merci beaucoup d'être avec nous. Comment ça va?
Ça va bien. Et chez vous?
Ça va très bien. On vous écoute. Parlez assez fort parce qu'on ne vous entend pas très bien.
D'accord. Je disais que un jeune non éduqué est un danger pour la société parce que l'éducation elle-même suppose l'instruction. Avec un jeune qui n'est pas instruit, en lui-même, somme d'ignorance, il ne fait que écouter un peu ce que la société fait. Il ne fait que retenir les mauvais côtés de la société et les mauvais comportements. Alors qu'un jeune qui est instruit, c'est quelqu'un qui a cette capacité-là de pouvoir un peu diriger sa vie, de pouvoir faire les bons choix. Aujourd'hui, par exemple, encore devant, on parle du phénomène des microbes.
C'est un terme pour expliquer. Bon, la plupart des auditeurs connaissent, mais c'est un terme un petit peu péjoratif, qui n'est pas très sympathique pour les enfants. Hein. Ce qu'on appelle les microbes à Abidjan, ce sont les enfants des rues. Voilà, d'accord. C'est parce que c'est un véritable phénomène, un véritable fléau. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, la Côte d'Ivoire a rendu l'école primaire obligatoire. Hein. Oui. Oui.
La Côte d'Ivoire a rendu l'école obligatoire puisque ces jeunes sont laissés à eux-mêmes. Ils n'ont pas la chance d'aller à l'école comme tous les autres. Ils sont frustrés. Ce phénomène est dû à une forme de frustration. Pourquoi les autres vont et pas eux?
Merci beaucoup, Kwasi Ndakofi. On a un autre auditeur, Luc Mweni, qui nous appelle de la RDC. Ah non, ce n'est pas lui, c'est Yoga Kenshiro qui nous appelle également de la Côte d'Ivoire.
Oui, bonsoir.
Comment allez-vous?
Ça va bien, merci bien.
Alors, vous dites que l'illettrisme est un vice nuisant à notre carrière professionnelle et notre vie entière. On vous écoute.
Quand quelqu'un est illettré, il ne peut pas s'engager dans une société. À quel point? L'illettrisme, en fait...
Parlez plus fort, on vous entend plutôt mal. Yoga, on vous entend plutôt mal. Parlez plus fort, s'il vous plaît.
On ne peut pas lire, on ne peut pas écrire. Quelqu'un qui est illettré n'a pas sa place en société. Au contraire, c'est un danger dans la mesure où ce dernier sera faillite en société. Et moi, je pense que l'éducation est la meilleure manière pour une société d'attirer des profits. Et surtout, un temps soit peu, de tuer les plus dans le monde, personnellement.
Merci beaucoup, Yoga, pour votre témoignage.
Paroles de femmes.
Premières élections ouvertes aux femmes électrices et candidates en Arabie Saoudite. Au moins 17 femmes élues aux municipales en Arabie Saoudite récemment. Alors Salma, Madame Svaldi, dites-moi si je le prononce correctement, Salma Bint Izab Al-Otaibi, la première victoire confirmée d'une femme pour un siège au conseil municipal à Madraka, au nord de la Mecque. Alors les États-Unis ont salué ce scrutin électoral qualifié d'étape historique et ont félicité les candidats. La participation des femmes représente une étape importante en Arabie Saoudite vers un processus électoral plus inclusif, a déclaré le département d'État. Environ 900 des quelques 6000 candidats pour 2000 postes locaux étaient des femmes. Beaucoup de femmes, cependant, n'ont pas pu se déplacer jusqu'au centre d'enregistrement, ce qui est une réflexion intéressante. Alors, selon les autorités saoudiennes, environ 130 000 femmes étaient inscrites pour ce scrutin, soit un dixième du nombre d'hommes inscrits, ce qui est mieux que rien. Madame Svaldi, votre réaction par rapport à ce développement en Arabie Saoudite ?
C'est-à-dire, après avoir vécu avec la mission culturelle à l'ambassade saoudienne, ça m'a fait vraiment grand plaisir de voir le woman female empowerment qui s'est établi dans le côté culturel. C'était la vision du roi, King Abdullah, qui est décédé. Et c'était sa vision de vraiment fortifier les femmes pour poursuivre des études scolaires et universitaires. Et le milieu préféré, c'était les États-Unis. Donc, tout ça, c'est pour vraiment mettre les femmes, et les, que ce soit les élèves ou les professionnels, dans un milieu de force, dans un milieu où ils peuvent vraiment prendre des décisions pour le bien-être de la jeunesse ainsi que le royaume de l'Arabie Saoudite.
Alors nous avons un autre auditeur en ligne, Alphonse Mbouaki, un habitué de la RDC, qui dit « Je crois que l'éducation basée sur ces... » Ah ben je vais le laisser dire quand même. Hein. Alphonse, comment allez-vous ?
Bien madame, vous savez que je viens de vous prendre sur l'appareil. Ça ne passe pas à la radio. Hein. Donc vous m'entraînez comme ça au dépourvu, donc au pied léger. Hein, donc,
On vous prend au dépourvu ?
Oui, parce que je ne vous suis pas sur antenne, donc je suis en direct avec vous sur mon appareil seulement.
Oui, vous avez l'habitude, vous avez laissé un commentaire sur Facebook.
Ouais.
Oui. Alors, vous voulez que je... Oui.
Je peux dire quelque chose. Je peux intervenir. Hein.
On vous écoute, vous connaissez le sujet, Alphonse.
Je suis branché.
Ok. Est-ce que vous auriez peut-être, si vous écoutez là, vous auriez peut-être une question à poser à Marie-Claude Svaldi ?
Bon, je demande à madame, vraiment, moi je trouve, c'est comme j'avais écrit sur Facebook, moi je trouve que l'éducation actuelle, c'est beaucoup basé sur la science, sur les connaissances intellectuelles. Et la morale n'est pas vraiment trop inculquée. C'est sûr qu'on sort des gens seulement intellectuellement bourrés de connaissances, mais sur le plan moral, dans le terre, ils n'ont aucune notion du respect des biens communs, aucune notion de justice sociale. C'est sûr qu'on retrouve des gens, quand ils sont en fonction, ils sont corrompus, égoïstes, ils ne respectent pas les biens d'autrui, ils ne respectent pas les biens communs, parce qu'on a beaucoup misé sur les connaissances intellectuelles. Mais si on veut que les jeunes d'aujourd'hui puissent modifier ce monde, il faut, en dehors de l'aspect scientifique, de l'aspect intellectuel, il faut beaucoup insister sur l'aspect moral. Il faut beaucoup insister sur les valeurs morales pour que demain on ait des jeunes qui soient à la gestion de ce monde, qui ont le sens de l'honnêteté, le sens d'intégrité, qui ont le sens du respect des biens communs, qui ont le sens du respect des vies humaines. Moi, je trouve la chose de cette façon. Je ne sais pas ce que votre invité là en dit. Qu'est-ce que lui en dit?
Merci beaucoup Alphonse. Je vais essayer de résumer un petit peu ce que vous avez dit, parce que je crois que notre invitée Marie-Claude Svaldi n'a pas très bien compris. Alors en fait, vous voulez simplement dire qu'il n'y a pas que l'éducation en elle-même, il y a aussi les qualités morales, hein. Il n'y a pas que le côté intellectuel de la chose. Vous avez dit, je crois que l'éducation basée sur ces deux principes, c'est-à-dire la transmission des connaissances intellectuelles suivies des valeurs morales, les jeunes de demain changeront ce monde. En gros, Alphonse, fonce, il dit que c'est pas parce qu'on est très 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 éduqué qu'on ne peut pas être un être corrompu, par exemple. Donc il met l'accent sur le fait qu'une bonne éducation aussi, c'est l'apprentissage d'une bonne morale et pas seulement de connaissances intellectuelles.
Absolument, et je suis d'accord avec vous, Alphonse. C'est pourquoi chez ECHOS, c'est le modèle d'emmener l'élève de son pays, n'importe quel pays, et de l'emmener dans une culture différente, où les choses sont vraiment faites différemment. Que l'intégration soit une intégration éducationnelle, aussi que culturelle, pour essayer d'améliorer les conditions de vie de cet élève, à finalement essayer de l'aider à évoluer en tant qu'une personne morale, éduquée, qui voit bien les choses, qui voit le côté négatif du monde dans une lumière un peu plus positive et qui pourra au futur lui aussi transmettre cette lumière et cette notion d'éducation culturelle et éducationnelle qu'il a appris dans son propre milieu. Une fois qu'il retourne dans son propre pays.
Alors nous avons un autre auditeur en ligne, Abdel Malik Ali Major, qui nous appelle du Tchad. On vous écoute, comment allez-vous?
Oui, je vais bien, et vous?
Ça va très très bien, on vous écoute.
Oui. Bon, j'ai laissé mon commentaire sur l'éducation.
Qu'est-ce que vous auriez ajouté à cela? Vous dites, oui, on peut changer le monde à travers l'éducation, parce que l'éducation est la base de toute chose dans la vie. Vous pourriez parler de votre cas personnel, peut-être, par exemple?
Oui, par exemple, dans mon cas personnel, j'ai bien réussi mon éducation, et j'ai aussi su comment m'adapter à mes parents. Allô?
Oui, on vous écoute. Est-ce que vous avez suivi la conversation? Est-ce que vous auriez éventuellement une question à poser à Marie-Claude Svaldi, notre invitée?
Bon, je n'ai pas une question, mais ce que je vais ajouter, c'est que pour moi, l'éducation, c'est la vie.
Oui.
Comment éduquer son enfant, c'est la première des choses pour un enfant.
Absolument, moi je suis tout à fait d'accord avec vous.
Oui, donc sans éduquer l'enfant, donc s'il y a une chose où dans le cas des besoins, l'enfant n'est pas éduqué, il ne pourra pas aussi savoir la manière dont les personnes vont se communiquer ou bien faire.
Merci beaucoup pour votre témoignage. Nous avons Ouedraogo Youssouf en ligne en Côte d'Ivoire. Comment allez-vous?
Oui, bonjour Nathalie, la Voix de l'Amérique, bonne année 2016.
Merci beaucoup, de même pour tous les auditeurs de VO Afrique. On vous écoute.
Moi je pense que l'éducation est le pilier de la civilisation mondiale dans laquelle tout manquement se paye au prix fort. Alors quand on sait que la responsabilité de l'espérance repose essentiellement sur les épaules de la femme, que notre comportement rend modeste en ce qui concerne l'Afrique, alors, vous convenez avec moi que défendre les droits des femmes en combattant les inégalités ne doit pas se faire selon un consentement, parce que cela est une nécessité absolue pour la société de maintenant et des sociétés futures. Et donc, si nous tenons à notre identité à tout point de vue général, il va falloir s'armer de courage et de détermination suivie d'effet pour faire de l'éducation une priorité infaillible. Quand on voit aujourd'hui le monde avec ces mouvements de jeunes qui se créent un peu partout, les frustrations politiques, sociales et tout, quand on lit un peu entre les lignes, on comprend parfaitement que, à quelque part, cela fait partie de l'éducation que non seulement les jeunes ont reçu des parents, mais aussi l'éducation qu'on reçoit des autorités politiques. Et à un moment, d'un moment ou l'autre, cela se traduit, n'est-ce pas, dans la société de façon générale et tout naturellement. Ceux qui sont bien éduqués, si je peux m'exprimer ainsi, subissent la mauvaise éducation des autres qui tentent d'imposer leur idéologie, leur vision aux autres. Et ça, je pense qu'il faut tenir compte. Il y a l'éducation moderne, il y a aussi l'éducation culturelle, il y a les sociétés de base qu'il faut arriver à combiner avec la modernité pour la bonne marche de notre société.
Merci beaucoup Youssouf pour votre point de vue. Nous avons sur le Facebook de VO Afrique d'autres commentaires, notamment celui de Loupop le Chanceux qui dit « Bien sûr que oui, donc l'éducation permet aux jeunes de changer le monde. » Il dit « Mon grand-père m'a toujours dit que l'arme la plus puissante du monde est l'éducation, la vraie, pas la bombe atomique. » Alors ça c'est un bon entendeur, n'est-ce pas, si, que les politiciens de notre monde puissent entendre ce beau message. Il y a Pascal Mouaba Aboubakar qui dit bien sûr que l'éducation permet aux jeunes de changer le monde. Alassane Diarra dit exactement la même chose. Bien sûr, c'est très court, mais c'est bien sûr. Petit Gaïtou dit c'est très cool. Pense que c'est cool le sujet. Donc merci beaucoup à tous ces auditeurs. Il y a Roland Djerma qui dit la jeunesse est le fer de lance du développement. Tout changement passe nécessairement par la jeunesse. Alors il dit, je peux citer le cas de mon pays, le Burkina Faso, où c'est nous, la jeunesse, qui avons fait changer les choses. Donc, optimiser sur l'éducation est plus que nécessaire pour le développement de notre continent, dit Roland Djerma, du Burkina Faso. Je voudrais revenir sur Marie-Claude Svaldi pour dire un mot sur les filles, parce qu'on ne faut pas oublier que c'est le magazine au féminin. Et comme vous travaillez essentiellement avec des pays arabes, des pays du Golfe, très musulmans, très conservateurs, vous avez aussi des filles étudiantes que vous placez. Et vous m'avez dit qu'il y en a très peu, à peu près 30%, mais que ce sont de grands succès. Les filles ont tendance à vraiment réussir dans ces entreprises.
C'est tout à fait vrai, Nathalie. J'ai eu la chance que ce soit la mission culturelle d'Arabie Saoudite ou bien les autres fondations avec qui je travaille pour emmener effectivement des élèves de tous les pays du Golfe vers les États-Unis et le Canada. Et j'ai vraiment la chance de travailler avec des hommes qui vraiment croient dans la force des femmes et qui sont tout à fait pour l'empowerment des females parce qu'ils savent et ils sont vraiment sincèrement convaincus que armer les filles d'une éducation solide serait le meilleur chemin vers le succès pour les filles, que ce soit en Arabie Saoudite, en Libye ou au Yémen, partout dans les pays avec qui je travaille. Vraiment, c'est un effort assez grand pour s'assurer que les filles ont autant de chances que les jeunes gens pour venir aux États-Unis ou au Canada, s'armer d'une éducation excellente dans les écoles américaines ou canadiennes et ensuite se spécialiser dans un domaine pour retourner chez eux et établir cette éducation dans le peuple du pays du Golfe d'où ils viennent. Donc, à ECHOES, on a vraiment le plaisir de travailler avec des femmes qui vraiment montrent une dédication aux études, un effort vraiment solide d'acquérir la langue en premier, parce que c'est ça où le déficit existe, parce que sans la langue, ils ne peuvent pas avancer dans les études universitaires. Donc, c'est une année de langue anglaise dans des centres, dans les universités. Et puis, c'est les études universitaires et ils font vraiment un effort assez surprenant, vraiment.
On peut l'imaginer, parce que bon, c'est pas rien de changer totalement de milieu, en fait. Alors, il y a Herman Mbaya qui dit « L'éducation, c'est une assurance à l'avenir. Donc, si tout le monde est éduqué, il y aura un changement total dans le monde. L'absence d'éducation est un danger pour la communauté », dit Herman Mbaya. Il y a Salomon Chongo qui dit « En tout cas, l'éducation est une arme contre le sous-développement. Elle élimine l'ignorance, etc. » Et il dit « Les profs nous traite de génération ignorante. Au contraire, ce sont eux qui ont perdu la volonté de bien enseigner. » Alors ça, c'est un autre sujet dont on avait déjà parlé dans le magazine au féminin de VOA Afrique. Et on arrive au terme de cette émission. Donc je voudrais remercier tous les auditeurs de VOA Afrique, y compris ceux que je n'ai pas eu le temps de citer. Je voudrais remercier Marie-Claude Svaldi, notre invitée. Et je voudrais terminer peut-être par cette petite remarque d'André Traoré qui dit « On ne peut changer le monde qu'à travers l'éducation des jeunes. » Il dit « Elle est efficace et moins coûteuse que l'ignorance. » Merci beaucoup à tous. À très bientôt. Au revoir.
Arrête. Good night and good luck. This is what it all comes down to. Keep your head high, take a breath, look around.